La lecture demande, et là je voudrais vraiment souligner, certaines préconditions assez spéciales. On ne fait pas assez attention à ça. D'abord, elle présuppose beaucoup de silence. Le silence est devenu la chose la plus chère, la plus luxueuse au monde. Dans nos villes, qui sont des villes de 24 heures maintenant, New York vit autant la nuit, au Chicago ou Londres que le jour, le silence se rachète à prix d'or. Je n'attaque pas l'Amérique. Mes enfants y sont, mes petits-enfants y sont. C'est l'avenir de l'homme, hélas. Je n'attaque pas, mais ils sont plus honnêtes que nous dans leurs statistiques. Quelle est leur statistique récente? 85% des adolescents ne peuvent pas lire sans qu'il y ait de la musique en même temps. Et il y a un effet que les psychologues viennent de nommer Flicker Effect, l'effet des brindilles de lumière. La télévision est ouverte au coin du regard, tandis qu'on prétend lire. Personne ne peut lire un texte sérieux sous ces conditions. Ce n'est qu'en silence, et en silence le plus total possible, qu'on peut lire une page de Pascal ou de Baudelaire ou de Proust ou de tout ce que vous voulez. Deuxième condition, un certain espace privé. Dans la maison, une chambre, même petite, où on peut être avec le livre, où on peut avoir ce dialogue sans que d'autres soient dans la chambre. Là, nous touchons à un thème très peu compris. La merveille de la musique, c'est qu'on puisse être plusieurs. On peut écouter en groupe, on peut écouter avec les gens qu'on aime, on peut écouter avec des amis. La musique est la langue de la participation, pas la lecture. Oui, on peut lire à haute voix, et il faudrait le faire beaucoup plus que nous le faisons. C'est un scandale, la mort de la lecture à haute voix aux enfants et entre adultes. Les grands textes du 19e sont souvent faits pour être lus à haute voix. Ça, je pourrais vous le démontrer. Il y a des pages entières de Balzac, de Hugo, de George Sand, dont la cadence, dont le rythme, dont la structure est une oralité développée, à écouter, à saisir. J'ai une chance folle. Mon père me lisait à haute voix avant que je ne comprenne. C'est ça le secret. Avant que je ne saisisse complètement. Donc, silence, vie privée. Troisièmement, remarque terriblement élitaire, mais le mot élite, je l'aime, c'est le mot qui veut dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. Ça ne veut rien dire d'autre. Enfin, remarquez-le. Avoir des livres. Maintenant, les grandes bibliothèques publiques ont été les bases de l'éducation et de la culture pour le 19e siècle et pour beaucoup d'esprits du 20e. Mais avoir une collection de livres dont on est, oui, le mot brutal, qui sont à vous, dont on est possesseur, qui ne sont pas empruntés. Pourquoi ? Parce que il faut absolument avoir un crayon en main.
Je crois savoir que vous distinguez dans l'humanité deux types de, oui, de personnes, celles qui lisent avec un crayon et celles qui n'en ont pas.
Et on peut presque définir le juif comme étant celui qui lit toujours avec un crayon en main parce qu'il est convaincu qu'il pourra écrire un livre meilleur que celui qu'il est en train de lire. C'est une des grandes arrogances culturelles de mon petit peuple tragique. Alors, il faut faire des notes, il faut souligner, il faut se battre contre le texte en disant quelle bêtise, quelle idée, rien de plus passionnant que les notes marginales des grands écrivains. C'est un dialogue vivant et Erasme a dit, celui qui n'a pas des livres déchirés ne les a pas lus. C'est in extremis, mais il y a une grande vérité là-dedans. Avoir une œuvre complète, c'est avoir chez soi un invité auquel on dit merci en pardonnant aussi les faiblesses, en les aimant même. Et les années après, on essaye par snobisme et arrogance de mandarin de cacher les traces des mauvaises lectures ou des fausses. Mais c'est de la bêtise. C'est quand mon père m'a offert Le long de la Seine, ok, ça valait quelques sous, personne ne le voulait, les trophées de Monsieur Heredia, que les portes de la poésie se sont ouvertes pour moi, et J'ai ici ma première édition de Heredia, maintenant, et je continue à être... à me sentir une dette énorme envers ce monsieur très guindé, très pompeux, très académique, et néanmoins un grand poète. Et ce sont les découvertes d'un livre qui changent la vie. Je l'ai raconté souvent, mais à la gare de Francfort, entre deux trains et kiosques, ça c'est l'Allemagne. Les kiosques avaient les bons livres, et je vois un livre, je connaissais pas le nom. C-E-L-A-N, le nom Paul Celan m'intrigue. J'ouvre au kiosque et première phrase, une langue au nord de l'avenir. Un Espar im Norden de Zukunft. J'ai presque raté le train. Et ça a changé ma vie. Depuis là, je savais qu'il y avait là une immensité qui allait entrer dans ma vie. L'expérience du livre est celle la plus dangereuse, la plus passionnante qui soit. Le livre, bien sûr, peut corrompre. Mais quelle blague de ne pas le dire ouvertement. Il y a des leçons de sadisme dans les livres. Il y a des leçons de cruauté politique, de racisme. Et parce que je crois que Dieu est l'oncle de Kafka, j'en suis persuadé, il nous rend pas la vie facile. Peu avant sa mort, Monsieur Sartre, qui n'aimait pas prodiguer les compliments à sa nom, dit « Il n'y a qu'un de nous qui va survivre, Céline ». C'est Sartre qui le dit, bien sûr. Il y a Proust et Céline qui divisent la langue française moderne entre eux. Il n'y a pas un troisième. Et que Dieu ait permis à ce tueur antisémite, à ce hooligan, à ce gangster de l'âme que fut Céline l'écrivain, il ne l'était pas dans sa vie personnelle, ça ajoute aux complications, de créer une nouvelle langue et puis d'écrire d'un château l'autre et nord, deux chefs-d'œuvre shakespeariens, à mon sens. J'en suis très, très malheureux et très reconnaissant et très fâché à la fois. Et j'essaye d'écarter de moi certains livres qui sont un venin destructeur. Mais pas de censure parce qu'on se trompe. Le censeur n'a finalement aucune autorité.